Vous voulez savoir pourquoi je vous parle autant de déconditionnement ces jours-ci ? Eh bien, c'est simple. Un éléphant, ça trompe énormément. Alors plus sérieusement, je vous révèle la suite de mes déconditionnements vécus dans la douleur entre 18 et 28 ans. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle conversation du lundi où je vous fais part des bouleversements que j'ai vécus, des déconditionnements parfois très douloureux que j'ai pu vivre entre l'âge de 18 et 28 ans. Et je me rends compte avec le recul de mes 58 ans maintenant que lorsque je regarde cette période de ma vie, je me rends compte que c'est vraiment là que toute ma vie a basculé. C'est vraiment là que toute ma destinée s'est dessinée en une dizaine d'années puisque c'est là que j'ai remis en question la plupart des conditionnements dans lesquels j'étais enfermé jusqu'à l'âge de 18 ans. C'est là vraiment que mes yeux se sont ouverts à travers toute une série de désenchantements, à travers une série de pertes d'innocence, que ce soit dans le monde de la santé, que ce soit dans le monde des relations humaines, que ce soit dans le monde de la gestion des émotions, que ce soit dans le monde de la recherche scientifique, que ce soit dans le monde de la vie professionnelle, que ce soit dans la spiritualité aussi, véritablement. Tout a explosé en vol pour moi et c'est à l'âge de 28 ans, c'est-à-dire en 1989, que j'ai éprouvé la nécessité absolue, la nécessité vitale de partager tout ce que j'avais découvert comme merveille qui avait véritablement amélioré la qualité de mon existence sur tous ces plans et de partager cela avec ceux qui n'avaient peut-être pas eu la chance de faire le parcours initiatique, le parcours de héros que j'avais vécu entre 18 et 28 ans. Et j'avais vraiment envie dans cette conversation de continuer à vous partager les grands moments de mes désenchantements, les grands moments de mes prises de conscience, les grands moments de mes déconditionnements parce que ça vous donnera probablement l'occasion, vous aussi, de faire le point sur quelles sont les choses que vous acceptez comme étant des évidences. Et vous vous souvenez que je vous avais dit « méfiez-vous des évidences ». C'est Gérard Fourré, mon professeur d'épistémologie des sciences, qui disait « méfiez-vous des évidences ». C'est à ce moment-là que les plus grands conditionnements qui sont complètement invisibles sont en train de restreindre votre vie et sont en train de vous amener à penser le monde et à vivre dans le monde d'une façon extrêmement déterminée et déterministe. Alors, j'avais arrêté mon récit aux alentours de 1984-85 où je vous disais que j'avais découvert l'homéopathie, j'avais découvert l'importance de prendre ma santé en main et finalement de ne pas être dans ce conditionnement qui consistait à croire que j'étais incompétent pour prendre soin de ma santé et un autre conditionnement encore plus pernicieux qui est partagé par l'ensemble de la population qui est que la maladie était une fatalité. C'est là que je me suis rendu compte que la maladie n'a rien d'une fatalité dans la plupart des cas. La plupart des cas, nous créons les conditions sur le plan physique, sur le plan émotionnel, sur le plan intellectuel, sur le plan des croyances qui font que nous tombons malades. Alors désolé pour ceux que ça pourrait heurter, mais c'est la conviction qui s'est faite à l'intérieur de moi à partir de 1984. Et puis quand j'ai eu des enfants, je vous en parlerai dans quelques instants, je savais que la manière dont j'allais éduquer mes enfants, dont j'allais nourrir mes enfants, dont j'allais les protéger aussi des agressions de la médecine occidentale, ferait que mes enfants ne seraient jamais malades. Et je l'avais annoncé à tous mes amis qui me prenaient pour un fou ou pour un orgueilleux et un prétentieux. Et finalement, c'est ça qui s'est passé. Alors, je reviens donc à mes expériences alimentaires parce qu'en fait, depuis 1984-85, j'ai changé, je pense, 6 fois d'alimentation. Ce qui veut dire qu'en fait, ce que j'ai expérimenté en 1986, qui était par exemple l'instinctothérapie qui était très à la mode à l'époque, où on choisissait les aliments à l'instinct et où c'était le corps finalement qui choisissait ce dont il avait besoin pour se rééquilibrer, eh bien ça a été pour moi une expérience extraordinaire de constater que finalement le corps possède à l'intérieur de lui toutes les ressources pour se rééquilibrer et que finalement la maladie et la santé, c'est une question de maintien d'équilibre ou de perte d'équilibre. Et j'avais trouvé très intéressant d'expérimenter l'instinctothérapie pendant 9 mois de façon extrêmement rigoureuse, parce que c'est là que je me suis rendu compte aussi que quand on clarifie, lorsqu'on épure son alimentation, eh bien, par exemple, des facultés parapsychiques ou extrasensorielles peuvent se développer. C'est à ce moment-là que s'est développée chez moi l'intuition, que s'est développée la télépathie. Je me suis amusé avec ma femme, qui était toujours ma femme à ce moment-là, à nous envoyer des messages télépathiques à distance sans convenir de l'heure à laquelle on se communiquait l'un l'autre. Et on s'est rendu compte que aussi notre sexualité s'est complètement transformée à partir du moment où elle n'était pas parasitée par toutes les toxines alimentaires. Voilà, je ferme ma parenthèse, mais si je vous parle d'alimentation, c'est pour vous dire que dans mon expérience, je n'ai jamais trouvé un modèle alimentaire qui était universel et qui convenait à tout le monde. Et je pense que ça, c'est important aussi de ne pas se conditionner au fait que le végétarisme ou le véganisme ou l'alimentation carnée ou l'alimentation dissociée, etc., ou l'instinctothérapie, c'est la panacée. En fait, il faut que vous cherchiez l'alimentation qui vous convient à une période particulière de votre vie. Et c'est pour ça que dans toutes ces années, donc sur plus de 30 ans, sur quasiment 35 ans, j'ai changé 6 fois de régime alimentaire parce que à chaque fois, je découvrais des choses nouvelles. Je découvrais que mon corps n'a pas les mêmes besoins à 58 ans qu'il n'en avait à 35 ans ou à 20 ans, vous voyez. Donc, c'est normal que même si on est face à certains conditionnements qui sont des nouveaux conditionnements alimentaires, eh bien qu'on accepte que ces nouveaux conditionnements soient eux-mêmes remis en question pour embrasser une nouvelle façon de s'alimenter, par exemple pour continuer sur le thème de l'alimentation. Alors, 1986, ma femme se retrouve enceinte pour la première fois et en bon père, en bon futur père de famille responsable, je me pose 2 questions fondamentales. Première question, vais-je vacciner mes enfants? Puisque, voyez, avec ma formation en philosophie des sciences, puisque après avoir quitté mon doctorat en physique, j'ai refait des études en philosophie pour étudier ce qu'on appelle la philosophie des sciences, la critique des sciences, l'histoire des sciences ou l'épistémologie. Et donc, c'est là que je m'étais rendu compte que dans tous les domaines de la science, pas seulement la physique, mais aussi la chimie, la biologie, la médecine, l'économie, etc., un certain nombre de choses nous sont présentées comme des vérités absolues et que ce n'était pas obligatoire d'accepter ces vérités comme des choses allant de soi. Et donc, je me suis fait l'hypothèse que ben, peut-être qu'il serait intéressant d'aller voir ce qui se cachait derrière l'hypothèse de la vaccination, de la même façon que j'avais fait la même démarche vis-à-vis de l'homéopathie. Vous voyez, j'avais lu des bouquins sur l'homéopathie avant d'aller me faire soigner par homéopathie. Donc, avant de vacciner mes enfants, je me suis dit, allons voir ce qu'il en retourne, allons voir les bénéfices et les éventuels dangers. Moi, à l'époque, j'ignorais tout de ce qui se jouait au niveau de la vaccination. Et là, ça a été vraiment une grande gifle à nouveau. Ça a été une prise de conscience absolument incroyable parce que tous les bouquins que j'ai commencé à lire sur la vaccination me démontraient que la vaccination était une imposture depuis le moment de Pasteur. En fait, vous ne le savez probablement pas, mais Pasteur a acheté les 2 médecins qui faisaient les expertises médicales lorsque Pasteur faisait ses premières expériences. Et donc, il avait corrompu les médecins pour que ces médecins affirment que la vaccination était quelque chose qui fonctionnait alors que ça ne fonctionnait pas. Et puis finalement, Pasteur a acheté le ministre de la Santé à l'époque de Napoléon, puisque Pasteur et Napoléon, c'est la même époque. Et Pasteur avait promis 50% de ses profits au ministre de la Santé de l'époque si ce ministre rendait la vaccination obligatoire. Et quand j'ai approfondi de plus en plus mes recherches, et il faut que vous sachiez que j'ai lu depuis 1986, j'ai lu à peu près une 60aine de livres sur la vaccination. Et lorsque je me suis battu et chamaillé sur les chaînes de télévision du Québec en 2009, lorsque je me suis opposé à la campagne de vaccination H1N1, donc dans l'automne 2009, J'ai massacré tous les médecins qui étaient en face de moi sur les plateaux de télévision parce que je me suis rendu compte que les médecins n'ont aucune formation critique en matière de vaccination. Ils ne savaient absolument rien de ce que je leur sortais comme études scientifiques qui sont disponibles dans la littérature et qui démontrent à quel point, 1, les vaccins sont dangereux, 2, inefficaces et 3, inutiles. Et quand je me suis rendu compte de cela, je ne suis pas parti en guerre contre les vaccins, j'ai simplement dit, ben moi, en tant que père de famille, je suis désolé, mais je ne vaccinerai pas mes enfants parce que j'ai compris aussi à quoi servaient les maladies infantiles. Je me suis rendu compte aussi que les maladies infantiles, toutes les maladies infantiles avaient diminué de 90% dans les pays occidentaux, dans les pays riches, bien avant l'introduction des vaccins luttant contre ces soi-disant maladies infantiles. Ce qui fait qu'on se dit, mais alors comment ça se fait que 90% des maladies ont déjà disparu avant que le vaccin ne soit introduit sur le marché? Et en fait, on s'est rendu compte que c'était surtout les conditions d'hygiène, les conditions d'égouttage, le recyclage des eaux, etc., qui a permis la disparition de la plupart des maladies infantiles. Et donc, pour moi, ça a été une conviction absolue. Je ne vaccinerai pas mes enfants. Et donc, je n'ai pas vacciné aucun de mes trois filles. Il y avait un vaccin obligatoire à l'époque en Belgique et j'ai trouvé un médecin suffisamment complaisant pour faire un faux en écriture pour que mes enfants échappent à cela. J'ai gardé mes enfants à la maison plutôt que les mettre à la crèche puisque là, on exigeait un carnet de vaccination et je n'avais pas trouvé tout de suite le médecin qui permettrait de faire ce genre de fraude, je dirais. Et ce que j'ai constaté, c'est que effectivement, mes filles ont fait plusieurs des maladies infantiles contre lesquelles on essaye de vacciner les enfants. Sauf qu'une fois qu'elles ont fait leurs maladies, qui sont en fait des processus où le corps construit son système immunitaire, eh bien, à partir de là, mes filles n'ont jamais été malades. Il y a eu deux grandes périodes d'épidémie de grippe à l'époque où elles étaient à l'école primaire, eh bien mes filles faisaient partie des 4 ou 5 enfants qui restaient en classe alors que les 20 autres enfants étaient malades, grippés. Et c'est là où j'ai vraiment compris que notre système immunitaire, on doit lui foutre la paix et que, en tout cas, j'aurai l'occasion de faire une série de vidéos dédié uniquement à la vaccination et à toutes les fraudes qui entourent le monde de la vaccination encore aujourd'hui et tous les enjeux de contrôle de population qui tournent autour de cette vaccination. Donc je ne vais pas essayer de vous convaincre aujourd'hui et de nouveau, je ne vous demande pas de me croire sur parole. Je vous partage simplement la démarche que j'ai faite en tant qu'être humain, en tant que père de famille. Et en tant que père de famille, pour moi, il était inacceptable de violer mes filles avec des produits qui étaient toxiques, qui étaient dangereux, qui étaient inutiles et inefficaces. Bien, allez, je continue. Parce que l'autre question que je me suis posée, c'est comment est-ce qu'on va accoucher, hein? Et je dis « on » parce que pour moi, l'accouchement, c'est un acte qu'un couple pose à un moment donné. Comment est-ce qu'on va accueillir notre enfant? Et c'est là que je me suis aussi interrogé. Je me suis intéressé à un certain nombre de pratiques alternatives, dont entre autres l'approche de Frédéric Leboyer pour l'accouchement sans violence. J'ai pris connaissance aussi des travaux de Franz Weltmann sur l'autonomie, hein, la science du toucher affectif. J'ai été à des congrès sur l'accouchement, tout ça pendant la grossesse de ma femme. Et c'est là que j'ai découvert que accoucher de façon horizontale pour une femme, c'était une aberration qui avait été mise en place pour le confort des médecins qui ne devaient pas se pencher ou qui ne devaient pas accompagner la femme en étant accroupie ou à genoux par terre. Et donc c'est là que nous avons cherché la seule clinique qui existait en Belgique où la femme pouvait choisir sa position d'accouchement, ce qui fait que ma femme, pour les 3 accouchements de nos filles, a accouché accroupie en étant soutenue par moi à l'arrière et toute la préparation s'est faite dans l'eau. Je vous assure que dans des conditions pareilles, et ça, ma première femme pourrait vous en parler si elle était à côté de moi pour l'instant, je peux vous assurer que les douleurs de l'accouchement sont énormément réduites si en plus on a appris à maîtriser et à canaliser la douleur avec une approche comme l'aptonomie par exemple, mais il y a encore d'autres approches. De nouveau, je ne dis pas que ces approches-là sont les seules valables ou les seules possibles. Ce que j'essaye de vous dire à travers tout ce que je vous partage, c'est remettez en question les choses qui vous paraissent évidentes. Si ça vous paraît évident que accoucher à l'horizontale, eh bien, essayez de chier la prochaine fois en étant à l'horizontale et vous verrez ce que c'est. Et cette phrase n'est pas de moi, cette phrase était du gynécologue qui était le directeur de la clinique d'accouchement de Braine-l'Alleud en Belgique, qui engueulait ses collègues obstétriciens en leur disant « Écoutez, si vous trouvez ça aussi confortable, essayez de chier en étant couché la prochaine fois et vous verrez que ce n'est pas si évident que cela. » Alors, qu'est-ce que j'ai encore fait comme démarche? En 1988, toujours dans mes recherches pour plus de santé, plus de responsabilité au niveau de la santé, j'ai eu connaissance, grâce à une petite revue qui s'appelait « Infor-Vie-Saine » de Raymond Augluckstein, vis-à-vis de qui j'ai énormément de reconnaissance, parce que c'est grâce à lui aussi, grâce à cette petite revue, que j'ai découvert plus tard les lavements au café dont je parle à mes étudiants et qui m'a permis, moi, de vraiment nettoyer de façon régulière mon corps, ce qui fait que depuis 33 ans, je n'ai pas pris une aspirine, je n'ai pas pris un supplément alimentaire, je n'ai pas pris un antidouleur, je n'ai pas pris une vitamine. Parce que j'ai appris vraiment à gérer l'équilibre de mon corps de façon extrêmement respectueuse de son homéostasie et de ses processus internes. Et donc, grâce à la revue Infor-Vie-Saine, j'ai découvert l'existence du docteur Rieke Geert-Hammer, qui était un médecin extrêmement controversé, un médecin allemand qui avait démontré scientifiquement les liens qui pouvaient exister entre des chocs biologiques ou biologico-émotionnels et le déclenchement de maladies graves comme le cancer, comme la sclérose en plaques, comme la fibromyalgie et d'autres choses comme cela. Et quand j'ai pris connaissance des travaux du docteur Hammer en 1988, donc les travaux de la médecine nouvelle, je me suis dit, soit ce gars est un génie, soit ce gars est un fou et un falsificateur. Mais comme j'avais déjà été échaudé par mes lectures à propos des falsifications de Pasteur, j'ai décidé d'appliquer la méthode scientifique que j'avais apprise dans mes études universitaires et j'ai été trouver les gens de mon entourage qui avaient été atteints d'un cancer et je les ai interviewés pour leur demander quel avait été l'événement choquant, l'événement traumatique qu'ils avaient vécu dans les mois ou dans les semaines qui avaient précédé le diagnostic de leur cancer, sans rien leur dire, sans leur dire que j'avais lu des travaux qui établissaient le lien entre des chocs émotionnels ou biologiques et l'apparition de cancer. Et je m'attendais à avoir peut-être 50% de réponses qui corroborait les travaux de Hammer et 50% de gens qui me disaient ben non, il ne s'est rien passé, etc. Et mon étonnement a été de me rendre compte que 100% des personnes que j'ai interrogées depuis 1988 ont toutes immédiatement identifié des chocs brutaux vécus dans l'isolement où les émotions associées à ce choc n'avaient pas pu être partagées et où tout ce conflit finalement avait été vécu sans aucune perspective de résolution. Et c'est là où les gens avaient déclenché la plupart du temps des cancers. Et c'est là que ma conviction s'est faite que le cancer non seulement n'était pas une fatalité, mais que le cancer pouvait même être guéri, puisque c'est une des choses que le docteur Hammer a prouvé également à travers tous les patients qu'il a accompagnés, et ce qui lui a valu la radiation de l'ordre des médecins, et puis ce qui lui a valu aussi d'être emprisonné à deux reprises parce qu'il continuait à aider des gens en étant radié de l'ordre des médecins. C'est là que je me suis rendu compte que le cancer pouvait vraiment être guéri. Et j'ai été témoin depuis 1990, puisque en 1990, j'ai été me former auprès du docteur Hammer, et c'est là que j'ai vraiment découvert un homme extraordinairement cultivé et extraordinairement connaissant des processus naturels sur le plan physiologique. Alors Hammer n'a jamais été un adepte des médecines parallèles, il critiquait même extrêmement virulemment l'homéopathie, l'ostéopathie, etc. Pour lui, il n'était même pas question d'utiliser ce genre d'approche. Mais j'ai découvert chez cet homme, qui avait un caractère absolument de cochon, parce que je l'ai fréquenté quand même assez longtemps, mais chez lui, il y avait un amour et un dévouement et un service auprès de ses propres patients pour les aider à se guérir de leur cancer sans recourir à la chimiothérapie, à la radiothérapie, etc., etc. Et vous voyez, quand j'ai découvert tout ça, c'est là que je suis devenu formateur, puisque c'est en 1989 que je suis devenu formateur. Et mon envie de continuer à diffuser ce genre d'informations. Et j'en ai ramassé plein la gueule, je peux vous le dire, parce que j'ai donné des conférences publiques pendant des années sur les travaux du Dr Hammer. J'ai produit à mes frais un documentaire sur les travaux du Dr Hammer et j'en ai pris plein la gueule. J'ai été traité de secte, j'ai été poursuivi par les services gouvernementaux pendant des années. J'ai subi 10 contrôles fiscaux en 3 ans, entre 1994 et 1997. Et j'en ai même moi-même fait un cancer au moment où j'ai découvert que j'étais sur écoute téléphonique, que des policiers en civil avaient infiltré mes conférences et mes séminaires, etc. Et je me suis guéri par une résolution émotionnelle de ce qui m'était arrivé. Sinon, je serais mort depuis 1987 d'un cancer du cervelet. Mais ça, ce sont des choses que je raconte sur mon blog et je n'ai pas le temps pour l'instant de développer tout cela. Mais la dernière chose que j'avais envie de vous partager aujourd'hui, c'est qu'en 1994, j'avais publié mon premier livre sur les jeux de pouvoir. Ça faisait plusieurs années que j'apprenais aux gens à repérer, à désamorcer les jeux de pouvoir pour ne plus être manipulable et manipulé, pour ne plus être déstabilisable et déstabilisé. Et tout ce programme maintenant est disponible dans des formations en ligne dans l'Académie des Relations Authentiques, donc dont vous trouverez les coordonnées sous ma vidéo. Mais donc, je faisais vraiment un travail de fond pour aider les gens à ne plus être aussi manipulés, aussi conditionnés, et pour pouvoir reprendre leur vie en main, pour reprendre le pouvoir sur leur vie. Et c'est à ce moment-là que je suis contacté par un certain colonel Vassen, Noël Vassen, qui était le précepteur du prince Laurent à l'époque, donc de la famille royale de Belgique, et qui était aussi responsable, il était professeur d'université, il était responsable du patrimoine immobilier de la famille royale de Belgique. Et je suis invité dans le plus grand restaurant de Bruxelles par Noël Vassen, qui me montre à quel point il est privilégié de travailler au service de la famille royale et au service du palais royal. Et donc pendant une heure, il me parle de l'importance du protocole, il me parle de tous les avantages officiels et officieux que peut recouvrir le fait de travailler au service du palais royal. Et donc après une heure, je me demandais où il voulait en venir. Et après une heure, il me dit: donc Monsieur Crèvecœur, si je vous ai invité à venir manger avec moi aujourd'hui, c'est parce que j'aimerais que vous travailliez au service du palais royal. Moi, je lui dis ben, avec plaisir, puisque je travaillais déjà à l'époque pour les grandes entreprises et j'apprenais aux dirigeants d'entreprises à exercer le pouvoir de façon éthique, respectueuse, non manipulatrice. Et je faisais la démonstration auprès des dirigeants d'entreprises que renoncer à la manipulation dans le management était finalement, en fin de compte, beaucoup plus profitable, aussi bien pour les individus que pour les entreprises, et que donc tout le monde était gagnant et tout le monde était respecté dans une perspective pareille. Donc, pour moi, être convoqué par une entreprise de la grande distribution, une banque, la gendarmerie nationale française ou le palais royal, pourquoi pas ? Et donc, je lui dis oui. Quel serait mon mandat? Et là, le commandant Noël Vassen me dit: eh bien, votre mandat, comme vous êtes, me semble-t-il, un des meilleurs spécialistes francophones de la manipulation et des jeux de pouvoir, nous aimerions que vous travailliez pour nous aider à mieux manipuler l'opinion publique à travers la presse écrite, la presse radio-télévisée. Et parce que, bien entendu, tous les rédacteurs en chef de la presse écrite, radio et télévision sont sous les ordres du Palais Royal, mais nous voudrions aller beaucoup plus loin encore dans le raffinement des processus de manipulation et de manipulation de l'opinion publique. Et là, j'ai éclaté de rire et je lui ai dit: mais colonel, j'ai consacré mon existence depuis 1983, depuis que j'ai eu des problèmes de couple à cause des jeux de pouvoir interpersonnels, j'ai consacré toute mon existence à créer une démarche pédagogique qui aide les gens à ne plus être manipulés, à repérer les manipulations dont ils font l'objet et à ne plus être victimes de ces manipulations. Et vous me demandez maintenant de me retourner contre ces gens au service desquels je me trouve pour être au service des puissants de ce monde ? Et là, il me dit, mais oui, évidemment. Il me dit, parce que de toute façon, tout le monde veut travailler pour le Palais Royal. Et je lui dis, ben, au moins, vous aurez rencontré une personne dans votre vie qui ne veut pas travailler pour le Palais Royal. Et là, il était complètement décontenancé. Donc, il m'a balancé toute une série d'informations dont j'aurai peut-être l'occasion de vous parler dans une autre vidéo. Mais il m'a traité de naïf. Et là, je lui ai répondu, mais vous savez, entre nous deux, je pense que vous êtes beaucoup plus naïf que moi. Parce que vous, vous êtes un pion sur un échiquier. Et le jour où on n'aura plus besoin de vous, vous sauterez comme n'importe qui d'autre. Alors que moi, je garde ma liberté. Et ça, pour moi, ça n'a pas de prix. Et l'univers m'a bien entendu, puisque un an plus tard, il a été mouillé à son insu dans un immense scandale qui a fait qu'il a fait de la prison. Et je l'ai revu quelques années plus tard en lui disant « Vous vous souvenez ce que je vous avais dit, que vous étiez un pion et que tôt ou tard, lorsqu'on n'aurait plus besoin de vous, on vous ferait sauter comme n'importe qui d'autre. » Et il ne m'a rien répondu ce jour-là, il a tourné les talons et il est parti. Mais ça, c'est... j'avais juste envie de vous dire cela parce que la bonne nouvelle de tout cela, c'est que c'est ce jour-là que j'ai confirmé mon engagement au service de ceux qui sont sans voix, au service de ceux qui n'ont pas de pouvoir, contre ceux qui essayent d'avoir du pouvoir et de l'emprise sur nous, que ce soit les milieux politiques, les milieux gouvernementaux, que ce soit les milieux pharmaceutiques, les milieux de l'agroalimentaire, etc. C'est vraiment là que j'ai confirmé mon engagement au service de ceux qui n'ont pas accès aux informations auxquelles j'ai pu avoir accès grâce à mon intelligence, grâce au temps que j'y ai consacré, grâce au hasard aussi qui m'a mis sur la piste d'un certain nombre de choses que j'aurais pu très bien rater tout au long de mon existence. Et c'est là aussi que la bonne nouvelle que j'avais envie de vous partager, c'est que les puissants de ce monde sont beaucoup plus fragiles que vous ne l'imaginez et qu'il suffirait de pas grand-chose pour que tous ces gens chutent de leur piédestal et tombent comme le colonel Vassen est tombé et a fait de la prison pour toutes les manipulations et toutes les manigances qu'il avait mises en place. Alors, gardez courage, gardez espoir. On continue la semaine prochaine et je vous retrouve sur mon kayak pour vous parler du chemin du héros, du parcours du héros et de comment nous pouvons devenir les héros de notre propre vie et de notre propre communauté.